et bienvenue dans Big Five. Olympique de Marseille à Atalanta Bergame, c'est l'affiche inédite qui nous attend en demi-finale de la Ligue Europa. L'Atalanta Bergame, actuelle sixième de Serie A, entraînée par l'indéboulonnable Gian Piero Gasperini. Avec lui, l'Atalanta s'est parfois approchée des sommets. Son football intense et offensif en fait une équipe redoutée, mais qui n'a pas encore remporté de trophée. Alors, où situer ce club dans le paysage du foot italien? Comment travaillent le président Antonio Percassi et le directeur sportif Tony D'Amico? L'Atalanta est aussi réputée pour sa politique de recrutement. Le club bergamasque, présent dans un dernier carré européen pour la deuxième fois de son histoire. À quoi doivent s'attendre les Marseillais le 2 mai prochain au Vélodrome? Et sur quoi doivent-ils insister pour prendre le dessus sur la DA? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos deux spécialistes du foot italien. Mélisande Gomez pour commencer. Bonjour Mélisande.
Bonjour à tous.
Et bonjour Valentin Paluzzi, notre correspondant à Milan.
Ciao à tutti.
Là, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Il y a bientôt 4 ans, on avait consacré un épisode de Big Five à l'Atalanta au moment du Final 8 à Lisbonne. Les Bergamasques s'étaient inclinés sur le fil 2-1 contre le PSG. Ils découvraient alors la Ligue des Champions. Cette saison, ils rayonnent en Ligue Europa. Premier de leur groupe, ils ont ensuite éliminé le Sporting Portugal en 8e et Liverpool en quart. Valentin, tu nous avais parlé de l'Atalanta comme d'un club à part, à l'identité ouvrière très marquée. 4 ans plus tard, c'est toujours ce qui caractérise le club lombard?
Alors, en partie, voilà. Il y a eu un gros changement il y a 2 ans, c'est l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire, comme pour de nombreux clubs italiens. L'Atalanta est devenue américaine. C'est un certain Stephen Pagliuca qui est évidemment un fonds d'investissement, qui est aux États-Unis et copropriétaire des Boston Celtics, évidemment le club de NBA. Et qui, je pense qu'il doit avoir 51% des parts, hein, voilà quoi. Il est vraiment actionnaire majoritaire, mais de peu. Et du coup, l'ancien actionnaire majoritaire, donc Antonio Percassi, donc parcours probablement unique dans l'histoire du foot, c'est-à-dire ancien joueur du club qui ensuite a pu racheter son club une fois qu'il avait arrêté sa carrière et réussi sa reconversion, est toujours là. Donc, on a deux âmes qui se marient bien. Et l'arrivée de Pagliuca, mais rien à voir avec l'ancien gardien italien par ailleurs, Gianluca, souvenez-vous, ça a permis au club de devenir un peu plus international, donc il a ramené ses compétences. Il y a eu pendant 2 ans un co-directeur sportif gallois, donc ça a influé évidemment ça sur notamment la politique concernant le recrutement, parce que l'Atalanta qui se base sur les joueurs du centre de formation, c'est évidemment terminé. L'Atalanta qui se base sur des joueurs bon marché, venus de championnats, on va dire, de seconde zone, comme la Belgique, comme les championnats du nord de l'Europe, c'est un peu moins vrai. C'est une équipe qui a désormais réussi à recruter des joueurs qui ont besoin de se relancer, des joueurs au fort potentiel qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, etc. Donc ça leur a permis d'avoir un gros upgrade encore sur le plan sportif, mais on conserve vraiment ça reste un marqueur identitaire de la ville, de la région. Hier, j'étais au stade, tu vois, et ce qui m'a marqué, c'est que il y a eu deux commémorations, une de Mino Favini qui est l'ancien formateur grâce à qui l'Atalanta doit sa réputation de club formateur par excellence en Italie, voire en Europe, qui est décédé il y a 5 ans. Donc, c'était la commémoration 5 ans jour pour jour. Et de Emiliano Mondonico, ancien entraîneur du club dans les années 80-90. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était Atalanta-Fiorentina, il a entraîné les deux clubs. Et à chaque fois, applaudissements de tout le stade. On ne perd pas ce côté marqueur identitaire, même ce petit côté champêtre de club de province. Et c'est aussi le secret du succès, en tout cas de la stabilité au niveau désormais depuis 8 ans.
Mais disons, globalement, comment est perçu l'Atalanta en Italie aujourd'hui?
Comme un club important, à part quand même, parce qu'effectivement, il y a maintenant des investisseurs américains et donc ça a changé d'actionnariat, même si Percassi reste à 45%, je crois, détenteur de départ. Mais un club à part parce que c'est une petite ville, Bergame, et parce qu'il y a une identité très forte dont parlait Valentin. Et parce qu'ils ne sont pas encore au stade de recruter, et je pense qu'ils ne le seront jamais au stade de recruter des mégastars. Ce n'est pas non plus un club qui recrute des joueurs déjà confirmés ou déjà sur le devant de la scène. Si vous allez dans la rue aujourd'hui, vous dites, vous savez qui joue à l'Atalanta? Les gens qui ne suivent pas le foot vraiment, ils ne savent pas qui joue à l'Atalanta parce qu'il n'y a pas de superstar à l'Atalanta. Ça reste un club qui a des réseaux de scouting exceptionnels. avec un savoir-faire, une organisation, un quadrillage par pays, par zone géographique, avec des compétences à chaque fois, des bons scouts au bon endroit, qui connaissent le maillage local, qui connaissent les clubs, qui connaissent les championnats, les divisions, qui suivent les joueurs sur plusieurs saisons. Et puis ça reste un bon centre de formation, voire un très bon centre de formation. Si je ne me trompe pas, Valentin, il y a deux titulaires encore dans le 11 de cette année, Ruggeri et Scalvini, qui ne doivent pas tarder à revenir de blessure, je crois. Donc des jeunes joueurs qui sont formés au club. Et donc c'est un club qui coche toutes les cases de la réussite entrepreneuriale, hein, qui est vraiment incarné, effectivement, tu disais, de Père Cassis, qu'il avait réussi sa reconversion. C'est encore mieux que ça, puisque c'est une des plus grosses fortunes italiennes. Il est dans les 40, à Forbes, il est dans les 40 plus grosses fortunes italiennes. Il a un empire entrepreneurial assez impressionnant.
Dans les cosmétiques
notamment, une marque de cosmétiques qui est distribuée ici, mais dans plein d'autres domaines aussi. Et ce succès... Ce qui est frappant par rapport, vous parliez de il y a 4 ans du Final Eight, et Valentin pourra le confirmer, c'est que le succès sportif, la réussite sportive d'un club qui n'était peut-être pas préparé à cet engouement médiatique, à cette pression-là, bah ça ne leur a pas du tout monté à la tête. Ils sont restés aussi compétents, aussi lucides sur les achats, sur les ventes. Ils ne sont pas emportés, ils n'ont pas mis à virer leur entraîneur à la moindre difficulté, ils n'ont pas rêvé plus grand que ce qu'ils sont. Ils sont restés d'une cohérence absolue. Donc c'est très fort ce qu'ils font. Enfin, faut mesurer la qualité du travail, les ventes qu'ils font quand on voit. On parlait du scouting, faut voir. Vous parliez de. Enfin, j'imagine qu'on va parler de Rasmus Højlund. Mais oui. Avant même Højlund, qui donc était à 75 plus 10, je crois, de bonus, ça fait 85 millions d'euros qui rentrent. Un joueur qui a fait une seule saison à Bergame. Il y avait Gossens qui est parti quasiment pour 30 millions, il y avait Kulusevski qui est parti pour 40 millions, il y a Kessié qui sont allés chercher en Afrique, qu'ils ont formé, puis après qui est parti au Milan pour plus de 30 millions. Donc c'est des rentrées qui sont phénoménales à moindre coût, plus la formation qu'ils ont, puisque Bastoni, qu'ils ont formé aussi, qui est international italien aujourd'hui, ils l'ont vendu au moins 30 millions à l'Inter. Donc il n'y a pas grand-chose qu'ils ne savent pas faire, en fait.
Et on a affaire à quel type de président avec Antonio Père Cassis ? Est-ce qu'il est proche de ses joueurs et de son entraîneur ?
Alors, Antonio Père Cassis, c'est quelqu'un de très discret. C'est un bergamasque pur et dur. Voilà, c'est-à-dire, on bosse et on parle peu, qui a le respect des rôles. Gasperini, il y a eu en 8 ans quelques petits moments, on va dire, un peu plus délicats, mais jamais son avenir a été remis en question. On est de la trempe des grands entrepreneurs italiens, c'est-à-dire qu'ils savent très bien s'entourer. Au niveau des collaborateurs, il y a eu quand même un départ qui aurait pu faire beaucoup de mal à l'Atalanta il y a 2 ans. C'est Giovanni Sartori, le directeur technique auparavant, qui avait fait des miracles au Chievo et qui désormais fait des miracles à Bologne. Et à ce moment, on pouvait se dire que ça pouvait s'écrouler en partie. Non, ils sont allés chercher Tony D'Amico, directeur sportif. Il est allé chercher Tony D'Amico, directeur sportif du Hellas Vérone. Et ça, c'est pas ressenti sur les résultats du club. Et puis voilà, quelqu'un qui au bon moment a compris il y a 2 ans que il fallait il avait besoin d'aide, il avait besoin de nouveaux moyens financiers, peut-être lui pouvait pas se permettre, en allant chercher un partenaire, donc le fameux Pagliuca. Et puis c'est une économie vraiment vertueuse, quoi. C'est un club qui est sur 8 bilans financiers positifs d'affilée depuis, en fait, qu'il y a Gasperini, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres clubs en Europe qui sont capables de ça, quoi. Donc chapeau, vraiment. Je rappelle, il était joueur de foot, il a arrêté assez tôt et il a réussi à se refaire derrière, à devenir un grand entrepreneur et à rendre à son peuple ce que son peuple lui a donné quand il était joueur. Belle histoire.
Près de 6 millions d'euros de bénéfices en 2023, l'Atalanta. Et c'est vrai que c'est important de le préciser, c'est l'un des rares clubs en Italie qui ne perd pas d'argent.
Non, bien sûr, avec les raisons qu'on a évoquées, hein, des plus-values sur les transferts quasiment chaque été est de plus en plus importante, ouais. Puisque plus le club réussit sportivement...
Un demi-milliard sur les 5 dernières années, j'ai checké, quoi.
Ouais.
En revenus, il n'y a que l'Atlético qui fait aussi bien. Voilà. 500 millions d'euros de ventes sur 5 ans.
Et quand l'équipe tourne comme ça et il y a des résultats, évidemment, vos joueurs, vous les valorisez davantage. C'est des joueurs en général qui payent assez peu cher et qui revendent très cher, plus des joueurs qu'ils forment eux-mêmes. Alors, c'est pas forcément ceux qui arrivent jusqu'en équipe première, mais il y a pas mal de joueurs formés à l'Atalanta. C'est un des centres de formation performants en Europe, le plus fertile d'Italie, ça c'est sûr. Mais il y a toujours 20-25 joueurs qui jouent dans les équipes pro des grands championnats qui sortent de l'Atalanta. Donc là aussi, c'est des revenus financiers. Et puis, ils n'ont pas la folie des grandeurs au niveau des dépenses. Ils ne se sont pas mis à se dire, on va acheter des stars, on va faire ci, faire ça. Ils sont restés droit dans leurs bottes. Ce qui fait que ouais, c'est super. Et Percassi, qui est très discret, tu sens une ligne directrice. Et voilà, ce que disait Valentin, c'est vrai que sa réussite comme entrepreneur, forcément, ça aide aussi, puisqu'un club de foot, c'est une entreprise. Et qu'il a mis les bonnes personnes aux bons endroits. Il a son fils, je crois, Valentin, qui est au quotidien impliqué dans le club et qui donc doit... lui doit surveiller tout ce qui se passe au quotidien et rapporter à son père. Donc c'est cohérent, c'est transparent et c'est efficace.
Et moi, je voulais juste préciser quand même, ils peuvent se permettre des dépenses quand même ces dernières années. Tu vois, ils ont battu leur record transfert l'été dernier. Ils ont pris Scamacca à 25 millions. Et El Bilal Touré à 30 millions.
Rien qu'avec Olyoun, tu rembourses tout ça, quoi.
Et puis au pire, tu vois, c'est proportionnel par rapport à l'augmentation de leur revenu. Tu vois, ils peuvent se permettre désormais des joueurs à 20-30 millions et plus des joueurs à 10-15. Effectivement, jamais ils iront claquer 50-60 millions sur un joueur comme ça, quoi.
Oui, la vente de Rasmus Højlund, c'est un exemple très significatif. Il est parti pour 74 millions d'euros hors bonus à Manchester United l'été dernier.
Oui, après une seule saison, et c'est, je pense qu'on parlera sans doute de Gasperini, qui est vraiment le démiurge, hein, celui qui a permis à l'Atalanta de devenir ce qu'elle est, même si on avait vu avec le Genoa déjà ses principes de jeu. Mais c'est vrai qu'il incarne la réussite et il a énormément de mérite aussi, parce que Gasperini, il rend les joueurs bons très vite. Et il rend les attaquants buteurs très vite aussi. Et d'ailleurs, parfois, quand les joueurs quittent Gasperini, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi forts qu'on le pensait, parce qu'il y a un gros travail de fait aussi pour les mettre en confiance. Et Højlund, c'est vraiment l'illustration. C'est-à-dire que souvent, vous recrutez un joueur, il y a besoin un petit peu de l'adapter, qu'il se fasse. En plus, la Serie A, c'est un championnat extrêmement compliqué pour les joueurs offensifs, très tactique, très exigeant. Il n'y a jamais un seul match qui est vraiment facile quand vous êtes attaquant. Bah avec lui, il n'y a pas besoin de ce temps d'adaptation. Parce que Gasperini, très vite, il arrive à tirer le meilleur de ses attaquants. On le voit encore cette saison avec Charles de Ketteler, lui qui connaissait déjà le championnat, puisqu'il avait échoué au Milan. Eh bien, on voit à quel point il est capable, Gasperini, de faire marquer les joueurs comme après sa grume, il vous sort le jus très vite, quoi. Et de Ketteler, il ne marquait pas au Milan, et bien, il marque avec l'Atalanta.
Gasperini, qui est évidemment réputé pour son foot offensif, pressing collectif, jeu rapide, attaque de feu. Et avec 59 buts inscrits, l'Atalanta possède d'ailleurs la troisième meilleure attaque de Serie A derrière les deux clubs milanais. Au fil des ans, Gasperini est toujours resté fidèle à ses principes, Valentin ?
Oui, alors c'est l'intensité, c'est l'agressivité dans n'importe quel contexte. Après, évidemment, le fameux marquage individuel tout terrain, l'importance des duels, c'est une équipe très physique, très verticale. Et encore plus physique. Lui, il a dit récemment, j'en suis à ma troisième Atalanta. Donc à chaque fois, il a retouché un peu. Il y a moins de joueurs, on va dire, très techniques comme Iličić et Papu Gomez. Ça a monté d'un cran encore physiquement. Ça passe un peu moins sur les ailes. C'est-à-dire le but classique de l'Atalanta pendant des années, ça a été la passe décisive d'un piston. Et c'est l'autre piston qui marque, tu vois, en 3-5-2 ou en 3-4-3. C'est un peu plus axial. Mais en tout cas, il n'y a qu'un plan de jeu à exécuter. Les joueurs n'ont pas le choix. Et hier, c'était son adjoint qui entraînait parce qu'il était suspendu, Tullio Gritti. Et en conf de presse d'après-match, il a raconté une belle anecdote. La mi-temps du match à Liverpool à l'aller, l'Atalanta mène 1-0. Et il a dit que les joueurs eux-mêmes ont dit non, on continue de jouer comme ça plutôt, tu vois, un peu, évidemment, ça aurait été le réflexe de freiner un peu. Et il a vu dans le regard de Gasperini la fierté, en fait. Et il a dit ça vaut tous les scudetti du monde, en fait, à partir du moment où les joueurs ont cette mentalité et l'appliquent, même si c'est contre Liverpool. Ça peut avoir un peu ses limites, hein, parce que l'Atalanta s'est loupé sur des matchs là où ils menaient récemment, ils menaient 2-0 contre le Hellas Vérone, ils ont fait match nul 2-2. À Monza, ils menaient 2-0. Ils ont gagné 2-1, mais à la dernière minute, Monza touche le poteau. Hier, ils sont en supériorité numérique, il y a plein de coachs italiens qui auraient fait rentrer, aller peut-être un milieu offensif en plus, etc. Lui, il faisait rentrer tous ses attaquants, l'Atalanta finit en 3-2-5, quoi. C'est vraiment c'est non négociable pour les joueurs cette mentalité. Mais voilà, après il peut y avoir, il y a eu des petits ajustements. Il n'est pas figé, voilà, il est pas têtu. Par rapport aux caractéristiques de ses joueurs, évidemment, il s'adapte un minimum.
Alors, Gasperini est aussi connu pour ses accès de colère pendant les matchs. Il était suspendu, là, Valentin, tu le disais, lors de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Est-ce que son énergie porte toujours ses joueurs, ou est-ce que parfois ça peut un petit peu porter préjudice à son équipe?
Moi, je pense qu'elle porte ses joueurs clairement. C'est pas un communicant qui va lisser son image, qui va essayer de plaire aux journalistes et aux caméras, comme il y a plein de jeunes entraîneurs un peu dans ce moule-là. Il n'est pas de cette génération-là, il est très terrain, et il le dit lui-même, lui, ce qui l'intéresse, c'est le terrain. Et je trouve, en tout cas moi personnellement, que ces joueurs sont vraiment bénéficiaires de ces méthodes plus que l'inverse. Il met pas une pression de dingue pendant les matchs à ces joueurs comme d'autres, hein, qui peuvent crier beaucoup et tout. Lui, il crie, c'est vrai, il a tendance des fois à s'emporter contre le corps arbitral. Et puis, il est difficile aussi dans le quotidien pour ses collaborateurs. Hein. On parlait du départ de Sartori, le directeur sportif. Je pense qu'il n'en pouvait plus, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils ont longtemps travaillé ensemble. Il est assez usant, Gasperini. Il est vraiment il peut être dans le conflit avec la direction sportive pour telle ou telle raison, telle ou telle recrue. Il y a une exigence qui est là et c'est normal, hein, c'est pas le seul à être exigeant. Vu les résultats qu'il a, on peut pas le lui reprocher. Moi, je trouve quand même qu'avec des jeunes joueurs, parce qu'il a eu beaucoup de jeunes joueurs, il a quand même un CV de formateur, hein, à l'origine, et il a gardé cette fibre-là et ce talent-là de voir dans le jeune joueur là où il peut appuyer pour le faire progresser. Et ben, je trouve, on parlait du match de Liverpool, du match retour où ils ont un résultat à gérer, où ils prennent un but très tôt, parce que ça, c'est le cauchemar. Ils avaient dit avant le match, il ne faut pas qu'on prenne un but trop tôt parce qu'on a gagné 3-0 là-bas. Ils prennent un but dans les 10 premières minutes. Eh bien, ils ont beaucoup souffert en première période. Et en seconde période, ils sont rentrés sans reculer, sans paniquer, en ayant corrigé 2-3 choses défensivement avec leur staff technique. Et du coup, en concédant beaucoup moins qu'avant, et pas pour autant en reculant pour protéger leur surface. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont confiants, ils sont conscients de leur qualité, ils sont conscients des difficultés qu'ils posent à l'adversaire, et même des joueurs de 20, 21, 22 ans. Quand vous voyez ces défenseurs centraux, c'est vraiment lui qui a lancé la mode. Enfin, c'est pas vraiment une mode, mais en tout cas dans son football, les centraux sont appelés à sortir très haut. Ils n'ont pas peur de le faire. Aussi parce qu'il leur dit, j'assume cette prise de risque. Il y aura des courses à faire si vous perdez le ballon, des courses de repli qui seront compliquées. Mais ils le font, et il ne va pas les engueuler pour ça. Après, il va être exigeant sur d'autres choses. Mais si le respect de ses consignes et ses prises de risque à lui, elles sont toujours encouragées. Donc le joueur, il est plus en confiance que bloqué ou un peu intimidé par le caractère du coach, je pense.
Il y a quand même eu il y a quelques joueurs qui ont quitté l'Atalanta, hein. Qui après sont un peu lâchés, quoi, sur les méthodes Gasperini, sur son exigence.
Tu penses à qui?
Limite dictat. Non, il y avait eu un mec mêlé, un Danois, là, qui a dit qu'il était... Après, il s'est un peu rétracté, quoi.
Ouais, mais après, en plus, il y a une exigence aussi physique.
C'était des méthodes... Mais méthodes dictatoriales. Enfin, dans les relations, Alors déjà, tu l'as dit, avec Sartori, ils ne se parlaient plus. Ils ne se sont pas parlés pendant des années. Et avec des joueurs, des fois, bon, c'est pas le seul, hein, tu vois. Mais il me fait penser un peu à Conte de ce point de vue-là. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait pas mal de joueurs, au bout de 2-3 ans, Gasperini, après, ils n'en peuvent plus.
Ils les usent.
Ouais, voilà, exactement. Et puis après, il y a ce paradoxe que l'Atalanta, c'est un club que tout le monde aime en Italie, mais Gasperini, c'est un entraîneur que les supporters adverses, enfin, tout le monde le déteste, parce qu'effectivement, il est assez antipathique publiquement. mais ça, voilà, on va pas s'en plaindre, parce que c'est un des seuls. Enfin, voilà, on se plaint des entraîneurs là, qui ont un langage, un discours stéréotypé. Lui, bon, il a pas sa langue dans sa poche, mais voilà, après, ça ternit forcément un peu son image.
Et est-ce qu'on peut parler quand même d'une petite régression depuis 2 ans, si on se fie au classement de l'Atalanta en championnat? Parce que après avoir terminé 3 fois 3e de Serie A, ils se sont classés 8e en 2022 et 5e l'année dernière.
Moi, je trouverais pas. Je pense pas qu'on puisse parler de régression vu les armes qu'a la concurrence financièrement. On peut pas tout le temps être. C'est pas le Bayern en Allemagne, l'Atalanta. Hein. Le Bayern, ils sont. Enfin, d'ailleurs, même pas cette année, mais bon, c'est vrai, quand ils sont champions, il y a une espèce de normalité. L'Atalanta sur le podium, c'était pas la normalité. C'est à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, lui, quand on lui dit à chaque fois qu'il a pas de palmarès. Mmh. Il dit moi, je gagne contre mes propres limites. Et donc, si vous gagnez contre vos limites, c'est comme un titre, en fait. Si vous êtes programmé pour vous maintenir et que vous arrivez septième, si vous êtes programmé pour arriver dixième, vous arrivez cinquième, eh bien, de faire, depuis qu'il a pris l'Atalanta en 2016, il a dû se passer sept saisons, ils ont été dans les cinq premiers cinq fois, je crois. C'est exceptionnel, parce que c'est bien de le faire une fois, mais de garder, et là, d'installer son club comme il l'a fait, aussi haut dans le football italien, dans le paysage du foot italien.
Et du coup, en Europe ?
Et en Europe, en renouvelant, comme on l'a dit, les effectifs quand même très largement renouvelés parce qu'ils font du mercato comme tout le monde, parce que effectivement les joueurs, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. C'est difficile de travailler avec lui. Alors il y en a qui résistent, hein, mais en général, ils ont envie d'autres méthodes et d'autres séances d'entraînement, d'autres préparations physiques estivales aussi. Donc ils s'en vont. Donc lui, à chaque fois, il faut qu'il réinvente un petit peu son système et il le fait. Donc je pense pas qu'on puisse parler de régression. Là, ils sont quand même en finale de Coupe d'Italie, en demi-finale de l'Europa League. Ils sont qualifiés, enfin, ils sont en course pour se qualifier à l'Europa League aussi via le championnat. Donc, il n'y a pas vraiment le feu à la maison.
Il y a aussi, l'Atalanta reste la huitième masse salariale de Serie A, donc ils sont dans leur corde, en fait, à chaque fois. C'est une des rares équipes italiennes qui joue à fond sur tous les tableaux. Donc, trois finales de Coupe en 5 ans, donc il y a des beaux parcours européens, donc forcément, ça peut se payer en championnat. Et puis, c'est devenu un top club européen parce qu'ils sont 21e au classement UEFA par club. En comparaison, Marseille, ils sont que 43e, si je ne me trompe pas. L'une de tes premières questions, Marie-Mille, c'était la place de l'Atalanta dans le foot italien. Moi, je dirais de l'Atalanta dans le foot européen. Hier, je suis arrivé très tôt au stade. C'est un des rares stades modernes italiens. Donc, à l'intérieur, il y a des cafés et compagnie. Tout, c'est très bien fait. Je me cale pour bosser. Et à côté de moi, il y avait des Anglais et des Hollandais qui étaient venus voir le match, qui parlaient entre eux. Et les deux Anglais, il y avait un fan de Newcastle et un fan de Manchester United. Et ils ont dit, en fait, eux, leur club en Europe, c'est l'Atalanta. Pour te dire, ouais. Le travail, tu vois, l'impact du travail de Gasperini au niveau italien et européen, parce que c'est un club maintenant qui a une vraie réputation hors des frontières italiennes.
Aussi parce que c'est un club qui joue, c'est une équipe qui joue, c'est extrêmement plaisant de les voir, on ne s'ennuie jamais deux minutes. Alors il y a de l'intensité, il y a des prises de risques, et il y a des choses qu'on retrouve maintenant. Il a inspiré aussi d'autres entraîneurs, d'abord en Italie, hein, il y a l'école avec Ivan Juric, avec Igor Tudor qu'on a vu à Marseille. Donc c'est des choses maintenant qu'on voit un peu davantage. Mais ce qu'il demande à ses joueurs, et on voit que maintenant il y a d'autres entraîneurs qui s'en inspirent, c'est hyper spectaculaire. Et c'est vrai que de voir ça, moi quand il y a un match de l'Atalanta, je vais le regarder plus parfois même de la Première Ligue ou quoi, parce que je sais qu'on ne va pas s'ennuyer deux minutes, quoi. Dans un sens comme dans l'autre, puisqu'effectivement cette saison ils ont des trous aussi, ils prennent des buts, mais au moins du coup il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai que je pense que ça a participé de la fascination qu'il y a eu pour l'Atalanta en Europe, avec aussi les déclarations de Guardiola quand il les avait jouées, hein, quand il avait dit c'est comme jouer l'Atalanta, c'est comme aller chez le dentiste, on sait toujours qu'on va souffrir quand on les joue. C'est assez fascinant de les regarder jouer et de voir les joueurs qui changent et toujours cette identité. C'est vrai que l'équipe n'est plus la même qu'il y a 4 ans. Moi, je les trouve, comme disait Valentin, une équipe beaucoup plus verticale, beaucoup plus dangereuse en transition parce qu'il y a moins de recherche du paleggio, comme on dit en Italie, avec Papu Gomez, effectivement. Là, ça va très vite. Ça va aussi vite sur les côtés, hein, à gauche avec Lokman, quand Ruggeri monte, quand Kolasinac vient mettre le surnombre. Ça va être compliqué défensivement pour l'OM. Mais c'est une équipe, tu t'installes et tu sais que tu vas prendre du plaisir pendant une heure et demie, quoi. Donc, évidemment, en Europe, je pense qu'ils ont tous envie aussi de les regarder.
Valentin, là, Mélisande vient de parler du match contre l'OM à venir. Comment est perçu l'Olympique de Marseille en ce moment-là en Italie ?
On en a parlé pendant quelques temps parce qu'évidemment, Gattuso, ça a attiré les curiosités. Après, je t'avouerai que si tu demandes à un Italien de citer plus de 3 joueurs de l'Olympique de Marseille, je pense qu'il a du mal. Non, mais je veux pas être médisant envers l'OM. J'ai absolument rien contre. Mais que ce soit... Je suis d'assez loin, quoi, mais je pense que ce soit au niveau des hommes et que ce soit dans le contenu, on est clairement sur deux planètes totalement différentes. L'Atalanta vient sortir Liverpool qui lutte pour le titre en Premier League, ils imaginaient bien que Marseille, qui est 8e ou 9e, non Ligue 1, qui rame là, parce que je crois qu'ils ont pu gagner en championnat depuis début mars, ça fait beaucoup moins peur. Alors après, on respecte, parce que voilà, on sait que c'est une équipe qui a plus de prestige que l'Atalanta historiquement, etc. Mais très objectivement, en théorie, il y a pas match. Après, ce qui peut faire la diff quand même, c'est la Ligue 1 qui met à disposition un calendrier aménagé et l'Atalanta qui va jouer tous les trois jours, qui va même jouer sa saison entre la. Il va y avoir un enchaînement, c'est-à-dire la demi-retour contre Marseille. Trois jours après, il y a la réception de la Roma en championnat, donc ça peut être un match décisif pour la qualification en Ligue des Champions via championnat. Et une semaine après Marseille, il y a la finale de Coupe d'Italie. Et vu que l'Atalanta, c'est une équipe qui ne s'économise jamais, on l'a encore vu hier, voilà, peut-être que Marseille peut en profiter. Il y a encore deux semaines qui vont passer, beaucoup de matchs. Il y a peut-être que l'Atalanta aura un petit coup de pompe d'ici là. Mais voilà, c'est une équipe qui a de la ressource, qui a bien plus de ressources, même au niveau de la profondeur de banque. Que l'Olympique de Marseille. Mélisande saura en dire plus là-dessus.
Ouais, mais quand même, Marseille aura bien quelques atouts face à l'Atalanta.
Oui, ils ont leur espèce de bonne étoile européenne là, sur les derniers tours de Ligue Europa. Et puis, ils vont avoir envie, ils vont avoir leur stade pour eux au match aller. Donc, le Vélodrome, c'est quand même un atout évident. On l'a vu encore contre Benfica. Mais maintenant, c'est vrai que l'effectif de l'OM est très limité, très amoindri. Et que l'Atalanta, alors ils ont effectivement un calendrier très soutenu, comme le disait Valentin, mais ils ont aussi une profondeur de banc que n'a pas Gassé à l'OM. Et Gasperini, d'ailleurs, il est capable de ça aussi. C'est aussi une de ses forces, c'est qu'il y a un tel cadre collectif, une telle structure dans l'équipe, qui change les joueurs. Il peut changer 2-3 joueurs, ça se voit même pas, ou pas beaucoup. Il y a des joueurs toujours, lui aussi, dans son football, il y a toujours des joueurs qui entrent en jeu en cours de match et qui vont apporter quelque chose de plus. Il l'a toujours fait dans tous ses clubs avec des joueurs différents. Donc, il y a une espèce d'impact player comme ça qui arrive.
Cette saison, c'est qui, par exemple?
Lokman, je sais que moi, je l'ai vu souvent rentrer, hier, entrer en jeu, mais là, ça tourne un peu devant. Quand c'est Scamacca, la Scamacca est dans une forme depuis un mois assez inquiétante pour la charnière marseillaise. Mais c'est aussi parce qu'on parlait d'intensité, de préparation estivale, de ce qu'il exige aux entraînements. C'est une équipe qui est programmée pour bien finir. Et elle finit bien ses matchs en général, et elle finit bien ses saisons. Et là, on arrive dans ce moment de la saison où ça va compter double. Et je ne pense pas qu'ils auront un vrai coup de mou. Alors évidemment, peut-être qu'ils seront un peu... On va tirer sur les organismes parce qu'ils voilà, ils sont qualifiés sur tous les... Enfin, ils jouent tous les tableaux cette saison, et donc ça va même dans la tête être un peu usant. Mais je pense qu'ils sont programmés pour tenir jusqu'au bout.
Juste, j'ajoute effectivement, lors de du quart aller à Liverpool, victoire 3-0, Gasperini fait un changement et à la 89e minute. Et pour compléter, j'ai checké les stats, il y a 18 joueurs de l'effectif qui ont été titulaires au moins 10 fois, et plus 2-3 qui pourraient être titulaires, mais qui auraient pu jouer plus, mais qui ont eu un peu de problèmes physiques. Désormais, l'Atalanta, il y a deux équipes en fait. Voilà, tous les postes sont tranquillement doublés, et la dernière trêve internationale, il y avait 14 joueurs convoqués en différentes sélections. Donc il y a de la ressource et aussi de la qualité.
Dernière question, est-ce qu'on sait aujourd'hui, donc une semaine avant le match, si les supporters bouillants de l'Atalanta seront présents au Vélodrome?
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'indication du contraire. Il y a encore des réunions à venir en préfecture là, dans les jours qui viennent. Donc, ça reste en suspens. Mais au jour d'aujourd'hui, comme on dit, ils seront là. Après, je ne pense pas que la préfecture puisse se permettre le même fiasco que lors du quart de finale où ils avaient annoncé qu'ils ne voulaient pas des supporters portugais. Et puis finalement, oui, parce que les Marseillais déjà partis à Lisbonne se retrouvaient aux portes du stade. C'était un petit peu grotesque. Donc là, je pense qu'ils seront très encadrés, pas hyper nombreux, mais qu'ils seront là.
Merci beaucoup. Merci Mélisande Gomez et Valentin Paoluzzi. Je le rappelle, le match aller sera à Marseille le 2 mai et match retour à Bergame le 9. Merci aussi à Léa Léostic pour la réalisation. Et merci à vous. Vous avez été plus de 100 000 à écouter notre dernier épisode sur Manchester City. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.